profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui est persuadé que le pire n'est pas toujours certain. Et son dernier livre nous explique pourquoi. Professeur de philosophie émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie de l'environnement, dont la plupart ont été coécrits avec son époux, agronome de formation. De 2013 à 2016, elle a présidé la Fondation de l'écologie politique, fondée par le parti Europe Écologie Les Verts, mais elle se dit plus engagée que militante. Alors comment penser et agir avec la nature en philosophie? Elle s'appelle Catherine Larère et j'ignore si parmi ses domaines de compétences en tant que philosophe spécialiste de l'environnement se trouve la pêche à la baleine.
À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait popo? Va la pêcher, va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon.
La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Mais voilà la porte qui s'ouvre.
Bonjour Catherine Larère.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Vous imaginez quelle va être ma première question, le poème de Jacques Prévert chanté par les frères Jacques, La pêche à la baleine, est-ce que ça s'adresse à vous? Vous y êtes déjà allé?
À la pêche à la baleine?
Ouais.
Non, jamais. Je suis née à La Rochelle, il n'y avait pas de baleinier à La Rochelle.
Et pourtant cette chanson vous parle particulièrement?
Depuis très longtemps, parce que je la trouve très drôle. J'aimais toutes les chansons de Prévert par les frères Jacques. J'avais ça en disque il y a très très longtemps. Et je trouve qu'elle est pleine d'humour et de dérision de tous les côtés. Enfin, contre les pêcheurs de baleines, mais contre aussi ceux qui pleurent sur la pêche à la baleine. Donc je trouve ça drôle.
Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Oui, c'est ce que je dis maintenant. Alors pendant longtemps, j'ai eu un peu honte. Je me disais,
honte?
Mais non, faut dire qu'on est professeur de philosophie. C'est pas être philosophe. Puis maintenant, j'assume.
Et ça veut dire quoi être philosophe?
Ça veut dire avoir une exigence de réflexion. Comment dire? Il y a une spécificité. Il y a une tradition, hein. Quelqu'un comme Bernard Bourgeois disait, faire la philosophie, c'est penser des pensées déjà pensées. Donc, s'inscrire dans une tradition. Je reconnais ça, mais pour moi, ça suffit pas du tout. Et je pense, c'est avoir un certain type d'exigence qui est, à la fois conceptuelle. Mm-hmm. Toujours questionner la question, bon, la vieille histoire. Et puis, qui est, moi, j'ai été formée au XVIIIe siècle, donc, qui a quelque chose.
Enfin, quand vous dites ça comme ça, on a l'impression
non,
que vous
êtes
au
XVIIIe siècle.
Avec, en étudiant
le
XVIIIe
siècle. Je me suis formée dans la philosophie des Lumières, ouais. Disons. Et donc, justement, pas s'enfermer dans une discipline, être toujours ouvert sur une pluralité de disciplines et une pluralité de pratiques.
Mais vous arrivez à définir ce qu'est la philosophie?
Non.
Non?
Et non, mais vous savez bien que nous autres philosophes, on va vous dire, faut questionner la question, donc...
Mais c'est pour ça que je vous la pose.
Qu'est-ce qu'on entend par philosophie? C'est le cours d'introduction des terminales, hein. Enfin, la seule année de terminale que j'ai faite, j'ai présenté ça. Donc, c'est un type d'interrogation qui s'est professionnalisé, donc ça compte. Hein, ça compte énormément. Pour moi, c'est vraiment la capacité à jamais se satisfaire d'une réponse et à toujours en examiner les tenants et les aboutissants.
Et peut-être qu'on peut pratiquer la philosophie sans pouvoir la définir. Peut-être que c'est secondaire, la question de la définition.
Oui, il y a des tas de... Tous les Wittgensteiniens vous diront qu'on ne commence pas par définir un mot, hein, et qu'il faut regarder les usages. Et que, justement, du point de vue des usages, il y a tellement de différentes façons de se dire philosophe, entre le sens ordinaire, qui est du côté d'une certaine façon de vivre, et je vous dis, un sens très professionnalisant, qui fait que ce qu'on dit à nos étudiants, c'est qu'il y a une technicité de la chose. Quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Pas vraiment, puisque ma mère était prof de philo en école normale d'instituteurs, et donc j'ai grandi. Je me souviens qu'à l'école maternelle, qui était une école d'application, justement l'école normale d'institutrice où enseignait ma mère, les normaliennes stagiaires m'entouraient, j'avais 5 ans, et elles me disaient « qu'est-ce que fait ta maman ?» Et je répondais « elle est professeure de philosophie ». J'en ai encore honte. Donc, je veux dire que j'en parlais avant de savoir ce que c'était.
Ouais. Et ça, c'est votre la première rencontre avec un prof ou un texte, quelque chose, vous a dit « Ah, c'est ça la philosophie !»
Oui, alors l'autre chose, et ça m'a vraiment plu, c'était en cinquième ou en quatrième, j'avais un très mauvais prof d'histoire, mais qui nous a fait une présentation de Descartes, et j'ai compris le cogito. J'ai compris que quand on doutait, on pouvait dire qu'on existait, et ça m'a ravi. De comprendre ça, j'étais vraiment contente.
Et est-ce que c'est là que vous avez décidé d'en faire vos études et votre métier ?
Donc, petit à petit, je vous dis, j'ai grandi en regardant les titres plus qu'en regardant dedans, mais des livres qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, et Critique de la raison pure, c'était un titre que je trouvais assez excitant.
Ah oui ?
Oui, je trouvais ça bien. Voyage autour de ma chambre aussi, ça, je trouvais ça tout à fait bien. Donc, ça n'avait pas grand rapport avec le contenu. Bon, et donc je me suis dit assez vite que j'en ferais de la philosophie, ça plaisait pas à ma mère, dont ça avait pas été son premier choix. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit oui, je vais faire de la philo.
Et donc là, vous avez fait le cursus classique
J'ai fait le cursus classique, oui.
Cagne,
normal sup, agrégation, à ceci près que j'ai été très marquée par la cagne, c'est-à-dire par le fait que je me suis pas tout de suite spécialisée en philo et que j'aimais bien les autres matières. Et par l'époque qui était les années 60, où on nous enseignait autant Lacan, Freud et Saussure qu'Aristote et Leibniz. Et donc j'ai passé la grecque, très honnêtement, en connaissant beaucoup mieux Freud, Marx ou Saussure qu'Aristote.
Et en quelle année vous avez passé la grecque ?
En 68, la honte.
C'était une vraie agrégation en 68.
Mais on a passé l'écrit juste avant le démarrage. Hein. Et du coup, d'ailleurs...
Pas d'oral.
Un oral en septembre, qui a été une épreuve.
Une épreuve dans quel sens ?
Il y a eu, au lieu d'avoir tout l'oral avec toutes les épreuves, on a eu juste une explication de texte. D'ailleurs, j'ai assez dégringolé, je devais être mieux placé à l'écrit qu'à l'oral.
Alors, parmi les professeurs que vous avez eus et ceux qui ont pu compter pour vous d'une manière ou d'une autre, on trouve celui-ci.
Marx a abandonné une certaine forme de réflexion philosophique qu'il a développée pendant sa jeunesse, non pas pour renoncer totalement à la philosophie, mais au contraire pour instaurer une nouvelle forme de philosophie inédite. Marx serait donc à ce titre un penseur remarquable, non seulement en ce qu'il aurait fondé une nouvelle discipline scientifique, ou en tout cas considérablement modifié les bases de cette discipline scientifique, à savoir l'économie politique, ou disons en gros la théorie de l'évolution des sociétés, mais aussi en ce qu'il aurait fondé une nouvelle discipline philosophique reposant sur une problématique toute différente de la problématique de la philosophie classique.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et la voix de Louis Althusser. C'était le 6 mars 1965 pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Catherine Larère. 1965, je crois que c'est l'année où vous avez pu assister au séminaire d'Althusser, lire le Capital.
J'ai assisté, oui, et j'ai entendu Balibar, Rancière, Macheret et Althusser lui-même. Et je dois dire que jusque-là, Marx était garrudi, donc un marxisme mollasson. Et moi, ce qui me plaisait dans Althusser, c'était l'exigence conceptuelle. Je peux pas dire que, j'adhérais. De toute façon, il n'y avait pas une politique évidente derrière. Mm-hmm. Et Ulm était un peu en retrait du PCF. Donc, puis moi, j'allais rapidement devenir Mao, donc quitter ça. Mais ça devenait intéressant de lire Marx, quoi.
Est-ce que c'est vrai qu'Althusser refusait d'accueillir les femmes, n'était pas à l'aise avec la présence des femmes dans son séminaire?
Tout à fait. En tant que... Bon, c'était moi quand j'étais normalienne, Sèvres et Ulm, l'école normale supérieure et l'école normale supérieure de jeunes filles étaient séparées. Mais nous, les Sèvriennes, on avait le droit d'assister aux cours fermés qu'il pouvait y avoir à Ulm. Donc c'est comme ça que j'ai assisté à des séminaires de Derrida, sans problème. Et puis, mais au moment de la grègue, une de mes amies, bon, pour nous tous, on était peu hein, de philosophes à Sèvres, sommes allés demander à Althusser l'autorisation d'assister à ces séminaires de préparation de la grègue. Et normalement, il n'aurait pas dû nous refuser. Donc il ne nous a pas refusé, mais il a dit « Oh, ça me gêne de parler devant des femmes ».
Ça, c'est incroyable aujourd'hui.
C'est incroyable, mais c'est vrai.
Non, mais je vous crois sur parole, mais c'est là on voit quand même que l'époque a changé. On ne comprendrait plus cette phrase à ce moment-là.
De toute façon, moi, quand j'étais à Sèvres, c'était Marie-Jeanne Durie qui était la directrice de Sèvres, et on avait protesté parce qu'après la grègue, on n'avait pas d'années supplémentaires, on avait moins d'années supplémentaires que les Ulmiens, et moins d'années supplémentaires, donc ce qui une année pour préparer la recherche après la grègue, et moins que les fontenaisiennes et les élèves de Saint-Cloud. Et elle nous avait répondu que c'était normal, puisque comme on était des filles, on était moins bonnes que les Ulmiens, mais comme on était sévriennes, on était meilleures que ceux qui étaient à Fontenay ou à Cloux. Donc c'était, on n'avait pas vraiment besoin d'années supplémentaires, quoi. Et bon, si je m'en souviens, c'est que ça nous a quand même beaucoup choqués. Et d'ailleurs, elle nous a expliqué, elle était poète, Marie-Jeanne Durie, comment elle allaitait un enfant d'un sein et de l'autre, si je puis dire, elle écrivait des poèmes. Bon, et donc ça, on n'oserait plus le dire.
Est-ce que le fait d'être une femme a eu d'autres conséquences sur votre carrière philosophique ou votre pratique de la philosophie?
Pas vraiment au début. C'est-à-dire le côté excellence, le côté normalienne, agrégée, etc., l'emportait sur le fait d'être une femme. Je vous dis, j'ai fait un an de secondaire, j'ai tout de suite été enseignante dans le supérieur, et j'ai pas rencontré d'hostilité jusqu'au moment où j'ai commencé, moi, à avoir du pouvoir. C'est-à-dire à être prof, professeur des universités et à diriger mon UFR, mon unité de philosophie. Là, on m'a dit que je pensais...
À Bordeaux ?
Ouais. Là, certains collègues m'ont dit que je pensais avec mon utérus ou des choses comme ça. Ce qui n'était pas extraordinairement agréable à entendre, à quoi on pouvait répondre. Mais c'est là que je me suis dit, bon, il y a un problème. Jusque-là, si vous voulez, j'ai eu une éducation strictement égalitaire, donc j'étais prête à me battre s'il le fallait. J'avais pas besoin de me battre. Là, il a fallu que j'affirme, quoi.
Et c'est encore le cas aujourd'hui, vous pensez? Les femmes philosophes rencontrent ce même type de problème à l'université?
Ben, si vous voulez, ma fille aînée est historienne, Mathilde Larère, et elle avait déclenché une pétition sur le manque de femmes historiennes à Blois. On a essayé de faire la même en philo, et on s'est heurté à beaucoup d'opposition, y compris d'un certain nombre de femmes qui, par exemple, nous ont dit mais Catherine, comment as-tu pu signer une chose pareille ? Donc, oui, il reste des... Alors, il y a des points de résistance. Je pense, bon, quelqu'un comme Sandra Laugier à Paris 1, par exemple, elle soutient. Et donc, mais il y a à soutenir.
Donc, c'est encore une cause...
Oui, c'est encore une cause.
Vous l'avez dit en passant, vous êtes devenue maoïste ? Après,
oui.
Vous étiez à l'école normale supérieure, vous étiez avec Alain Badiou?
Alors, j'étais avant, c'est-à-dire que je suis même membre fondateur de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes.
Vous avez l'air très fière.
Donc, de Robert Linard et de Benny Lévy, donc dans les années 65-66. J'ai passé la grègue, c'est-à-dire que je suis pas partie m'établir en usine, et donc je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand. Je connaissais, mais Badiou est plus de génération, je l'ai pas connu à Ulm, quoi.
Il est plus âgé que vous.
Mais mon mari et moi sommes partis à Clermont-Ferrand où nous avons soutenu des luttes d'usines qui étaient dirigées par des gens que dirigeait Badiou. Mm-hmm. Donc c'est là, je connaissais Sylvain Lazarus, Natacha Michel, je connaissais, mais là on les a retrouvés.
Et vous n'avez pas continué à militer?
Non, en fait, je dirais que, je vous dis, moi j'avais choisi de passer la grègue, mon mari était assistant à l'INRA, on soutenait des luttes, mais on n'était pas... c'était après le cours quoi, qu'on faisait ça. Et puis, vous savez, très vite, il y a eu la dissolution de la gauche prolétarienne, très vite, il y a eu le reflux. Hein. Très vite, des gens avec qui on avait milité ont commencé à écrire des livres du genre Retour de Chine, du genre, etc. Et ce qu'on a aimé, quand je dis on, c'est mon mari et moi, ce qu'on a aimé chez Badiou, c'est qu'il maintenait une certaine fidélité au marxisme et une fidélité innovante.
Et il reste quelque chose de votre engagement maoïste dans votre travail aujourd'hui ?
Ben, pas directement, puisque bon, quelqu'un comme Badiou et beaucoup de marxistes pendant longtemps ont eu un mépris de fer pour les questions environnementales. Et bon, ce qui reste, c'est toujours la même exigence que j'ai eu très tôt chez les maoïstes, de continuer à penser par soi-même. Quoi.
Mais ça, on le trouve ailleurs que dans le maoïsme.
Oui, hein. Tout à fait. Mais je pense que bon, ça, de temps en temps, ça m'amuse de faire une citation de Mao, personne ne s'en rend compte, il y a un petit côté...
Bah c'est dangereux aujourd'hui parce que vous vous reprochez d'avoir cautionné des millions de morts quand vous parlez de Mao.
Oui, je sais.
Ça vous amuse?
Ouais.
Parmi les autres professeurs que vous avez rencontrés qui ont pu compter pour vous, en tout cas son travail a compté pour vous, on trouve Quentin Skinner.
Cet idéal de souveraineté du peuple, comme modèle dans une république, a fait de Machiavel un héros. Tout d'abord au XVIIe siècle, lors de la Révolution anglaise, et de la même façon pendant la Révolution américaine. Ce sont les discours de Machiavel qui sont, entre autres, le texte fondateur de la Révolution américaine. Car c'est lui qui dit que si on est le sujet d'un pouvoir monarchique, qui est arbitraire, on est des esclaves. C'est ça l'esclavage, c'est être assujetti au vouloir de quelqu'un d'autre. On doit être uniquement sujet de sa propre volonté. Et comment être assujetti uniquement à sa propre volonté en politique ? Eh bien, en se gouvernant soi-même.
Et oui, Catherine Larère, vous n'avez pas commencé vos études et votre travail en tant que philosophe et chercheur en philosophie avec la question environnementale. Il y a d'abord une rencontre avec Montesquieu, je crois, et puis cette réflexion sur le passé républicain européen avant la Révolution française, au fond, et c'est là où Skinner apporte quelque chose.
C'est là que j'ai rencontré Skinner, si vous voulez. Bon, j'avais travaillé aussi sur l'émergence des catégories économiques au XVIIIe siècle, et j'avais, à la différence de ce que font les Français généralement, qui est de regarder la naissance de l'économie comme le développement d'une science, moi j'avais vu comme un nouveau discours politique, ce qui m'a amené à rencontrer les théoriciens de Cambridge qui travaillaient
dont
là-dessus,
fait partie Skinner.
Et donc Quentin Skinner, et donc j'ai bien aimé l'idée de remettre en cause l'exception française sur le républicanisme.
Et c'est le XVIIIe siècle qui vous a attiré d'abord ?
Oui, ça a été un peu une série de rencontres par hasard, mais c'est souvent des choses que j'ai faites. Quand je suis arrivée à Sèvres, en fait, le premier exposé que j'ai eu à faire a été sur le discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau. Et j'ai découvert quelque chose qui m'est resté, que les choses apparemment simples peuvent être en fait très compliquées et complexes. Et je me suis trouvée plus intéressée par ça que, bon, j'ai lu Hegel comme tout le monde. Mais au fond, Hegel, une fois qu'on a compris, on a compris. Tandis que le XVIIIe siècle, les textes, et en particulier les textes français, une sorte de simplicité apparente, et en fait c'est difficile à comprendre. Et ça j'aime bien.
Et vous continuez à travailler sur cette période-là, sur Montesquieu aujourd'hui ?
Oui, je suis en train de rédiger, par exemple, un article, il va y avoir un compagnon, un volume d'études édité par Cambridge University Press sur Montesquieu, et je fais l'article sur la démocratie, enfin sur le monde antique.
Et pourquoi Montesquieu en particulier parmi tous les philosophes de cette époque ?
Un petit peu hasard. Un petit peu hasard. J'avais lu Althusser, alors là aussi, bon. Et j'ai commencé comme assistante à l'université à Clermont-Ferrand. On m'a donné un cours sur Montesquieu. J'ai dit oh c'est facile, il y a Althusser. Et donc voilà.
Et c'est aussi par hasard, si l'on vous croit, et si on continue à avancer dans le temps avec vous, Catherine Larère, que vous vous retrouvez à un colloque à Porto Alegre en 1990, organisé dans le cadre du sommet de Rio, dans lequel vous êtes amené à présenter un livre de Michel Serres, Le contrat naturel. Michel Serres, que voici.
Qu'est-ce que l'écologie ? Réponse. C'est la science la plus difficile aujourd'hui. C'est la science qui est globale, c'est-à-dire sur un endroit donné, savoir tout. Alors évidemment, si à partir du lac de Madison, Wisconsin, ou à partir du Mont Ventoux, vous élargissez pour aller à l'écologie de la planète, vous allez avoir alors une totalité scientifique extraordinairement difficile à maintenir, à tenir dans la main. Bon. Et l'écologie politique est tellement différente de ça. C'est ça qui me fait le plus peur, quelquefois. Parce que j'entends des discours d'écologistes, avec autant de guillemets, et quelquefois je me dis, mais est-ce qu'ils savent de l'écologie ? Et tout mon souhait, c'est qu'il y ait la réunion entre les deux sens de ce mot-là.
Faut-il distinguer l'écologie des écologistes ? Ça, c'est une question qu'on va laisser de côté un instant, Catherine Larère. D'abord, racontez-nous pourquoi vous êtes retrouvée par hasard à Porto Alegre, comme si là encore, par hasard, vous étiez retrouvée spécialiste de la question environnementale.
Alors ça a été une série de hasards, c'est-à-dire c'était en 92, au moment du sommet de la Terre à Rio. Il y a eu dans tout le Brésil une série de colloques et il y en avait un qui devait avoir lieu à Porto Alegre, donc au sud du Brésil. Et Porto Alegre n'était pas connu comme il l'a été après, c'était avant le mouvement altermondialiste. Et ce colloque portait sur l'éthique environnementale. Et celui qui l'organisait voulait un panel d'intervenants aussi internationaux que possible. Donc, il y avait des Anglais, des Américains, il devait y avoir un Argentin, et puis il voulait un Français. Et le Français qui devait venir, Jean-Pierre Dupuis, n'a pas pu venir. Ils étaient à la recherche de quelqu'un. Mmh. Il se trouvait que, parce qu'il y a des liens universitaires très très anciens, enfin, qui remontent au moins à Lévi-Strauss, entre le Brésil et la France, et que les Brésiliens viennent faire leur thèse en France, que je connaissais quelqu'un, mais qui préparait une thèse sur Aristote de l'université du Rio Grande do Sul de Porto Alegre, et qui donc, à la recherche d'un Français qui pourrait intervenir sur ces questions, il me connaissait, mais pour autre chose, enfin pour ce sur quoi je travaillais, c'est-à-dire la philosophie politique 18e, début 19e, mais il me connaissait, il savait que mon mari, parce qu'il était agro, parce qu'il avait travaillé avec Dumont, parce qu'il travaillait sur les forêts, travaillait déjà sur les questions environnementales, mais il n'était pas philosophe et il ne parlait pas anglais. Or, j'étais philosophe, je me débrouillais en anglais, mais si c'était mon mari, je devais bien pouvoir m'en débrouiller. Et donc, je me suis retrouvée à Porto Alegre, ne connaissant rien à l'éthique environnementale. Je n'avais même pas idée que ça existait et personne n'avait, en France, enfin personne que je connaissais n'avait l'idée que ça existait. Je connaissais Michel Serres, que j'avais connu à Clermont-Ferrand. Il l'avait déjà quitté, mais il y revenait souvent, pour qui j'avais une grande admiration. C'était quelqu'un d'extraordinairement brillant et qui vous rendait intelligent. C'était un vrai plaisir. Mmh. Et très attachant en même temps. Et il avait publié 2 ans avant, en 90, Le Contrat Naturel, qui avait provoqué des lazzi, de mes collègues. On s'était moqué, lui, à un contrat naturel. C'était vraiment débile. Bon. Et moi, j'avais de l'estime pour Michel. Et, ben, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose dans le contrat naturel.
Faut quand même préciser que dans le contrat naturel, il y a l'idée qu'on peut contracter, enfin, signer un contrat avec la nature ou des parties de la nature.
En résumant, enfin, en retenant le côté le plus caricatural.
C'est ça.
En fait, moi, j'avais présenté un peu l'interprétation que Latour présentait à peu près au même moment, qui, en fait, c'était un problème de rapport entre science et politique. Hein, et que la nature, à un certain niveau, c'était l'ensemble du discours scientifique sur la nature. Et que donc, il fallait articuler. Bon. Et donc, je suis arrivée à Porto Alegre avec, cette présentation du livre de Serres. À la limite, jamais. Pour moi, quand Serres disait la nature n'existe pas, bah oui, bien évidemment, j'étais française. Bien évidemment, la nature n'existe pas. Et donc, je suis arrivée, et c'est là que j'ai rencontré deux des grands spécialistes américains d'éthique environnementale, qui étaient Holmes Thurston III et John Baird Callicott. Bon, Holmes Thurston III, m'a pas accordé beaucoup d'intérêt, mais Callicott était ravi de rencontrer une Française, donc j'ai beaucoup discuté avec lui. Et j'ai passé mon temps à lui dire, je ne comprenais rien, puis ça me paraissait bizarre. I disagree, je suis pas d'accord.
Donc Callicott, c'est un des pionniers de l'éthique environnementale. Hein.
Tout à fait. Et alors, il s'est trouvé, pour aller vite, quand je reviens à Paris, donc je vais à Rio, où j'avais une amie, donc je vais un petit peu au sommet de la Terre. Je continue à discuter avec Callicott, et je reviens en France, et un ami qui habitait au-dessus de chez nous, à Paris, je raconte ce que j'avais rencontré, l'éthique environnementale, tous ces machins-là, et il me dit, j'ai quelque chose pour toi qui va t'intéresser, et il m'apporte la littérature grise, un tapuscrit de la Fondation Saint-Simon, qui s'appelle Le Nouvel Ordre Écologique, et c'était le livre à paraître de Luc Ferry. Et donc je le lis, et j'apprends que pendant 15 jours, 3 semaines, j'avais parlé avec quelqu'un qu'il présentait comme un fasciste.
Donc Callicott ? Luc Ferry traite de fasciste dans son livre, c'est ça ?
C'est pour lui, dans le nouvel ordre écologique, l'écologie est un nouveau romantisme, donc, dans la généalogie du romantisme allemand, donc conduit au fascisme. D'ailleurs, chacun sait que Hitler était un grand écologiste. Bon. Et donc, ceux qui défendent autre chose que le sujet humain sont contre les droits de l'homme et sont, en gros, des fascistes. Et je me dis, j'ai passé quand même 15 jours à discuter avec quelqu'un, à lui dire « I disagree ». Et là-dessus, il m'explique Bah non, c'est pas ça un fasciste.
Mais fasciste, le mot ne se trouve pas dans le livre, assurez-moi, c'est vous qui en parlez en ces termes.
Dans le nouvel ordre écologique, il traite peut-être de nazi. Mais c'est l'idée. Ah si, je vous assure. D'ailleurs, après, je me suis retrouvé à m'occuper d'une exposition sur la nature au muséum, et la jeune femme qui était la muséologue, elle n'avait qu'une peur, c'est que en défendant la nature, on attaque les droits de l'homme. Donc c'était les effets.
C'était le souci à l'époque, c'était en fait intéresser à la nature, c'était être contre l'homme.
Voilà. C'était l'opposition entre naturalisme
et humanisme.
Et donc, si vous voulez, j'étais professeur, donc j'étais un petit peu plus décontracté sur les recherches que je pouvais faire. Je me suis lancé là-dedans et Calicott m'a beaucoup aidé à avoir accès à une littérature à laquelle on n'avait pas beaucoup accès. C'est-à-dire, il m'a envoyé des articles, etc. J'ai raconté ça à des gens comme Monique Canto ou Pierre-François Moreau qui m'ont dit intéressant, Monique Canto éditait son dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, elle m'avait déjà demandé des articles, mais elle me dit fais l'article nature.
Parce qu'à l'époque, personne ne s'y intéressait en France.
Personne ne s'y
intéressait. Aujourd'hui, il y a 5 parutions par semaine en philosophie sur la question de la nature et de l'environnement.
Et alors, Pierre-François Moreau m'a fait publier quelque chose dans la collection philosophie avec un S du PUF. Quand j'étais à Bordeaux à ce moment-là, quand le livre est sorti, il a été présenté à la librairie Mola, qui est l'endroit où on présente ses livres à Bordeaux, et le collègue qui devait être un prof de Cagnes fait ma présentation en rajoutant sur Normalienne, agrégé, gna, etc., professeur des universités, etc. Bon, il dit tout ça, et puis il se tourne vers moi et il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance pour que vous écriviez ça ?»
Et ça, c'était la nature et l'environnement, c'est ça?
Voilà.
Mais alors, depuis cette rencontre, vous n'avez pas arrêté d'écrire sur le sujet. Les philosophes de l'environnement, du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement, l'écologie et politique, penser et agir avec la nature, une enquête philosophique, les inégalités environnementales, le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, on va y venir, c'est votre dernier livre. Bref, c'est un sujet, c'est pas simplement un sujet de recherche, là, c'est une préoccupation constante.
Ah ben oui, parce que si vous voulez ça, bon, on a publié du bon usage de la nature, et puis j'ai publié les
philosophies. Donc on, parce que vous les,
parce que on travaille avec mon mari. Alors si vous voulez très très rapidement, Raphaël Larère, qui est ingénieur agro, sociologue INRA, et très rapidement, pourquoi je fais cet article pour Monique Canto, l'article nature, et pour le dictionnaire de philosophie morale, et à la façon française, présenter un article, c'est faire l'histoire de la notion. Donc, je fais l'histoire de la notion, et là-dessus, Dominique Méda, avec qui j'étais en rapport par ailleurs, me dit, y a de quoi en faire un livre. Mmh. Mais il y avait toute une partie d'histoire des sciences et de la philosophie. Moi, je ne suis pas épistémologue. Et alors que mon mari a la formation agro, et puis il s'intéresse à la biologie, à l'écologie, et je me dis, je pouvais faire un article pour le dictionnaire de Monique Canto, mais je pouvais pas faire tout un livre. Donc, on s'est dit qu'on travaillerait ensemble. Lui, il m'aiderait dans la référence à la science, puis dans toute la pratique, parce qu'il avait été au Conseil national de protection de la nature. Donc, il avait une idée. On part sur la protection de la nature. Donc, il avait une idée. Moi, j'avais une formation philosophique, de philosophie morale et politique, donc normative. Et on travaillerait ensemble. Et donc, on a travaillé ensemble. Je ne vais pas vous raconter ma vie. En gros, ça s'est bien passé parce qu'on avait on était tous les deux, on avait travaillé indépendamment. Je veux dire, il n'y a pas eu de problème de rapport de domination.
Mais surtout, vous avez continué.
On a continué, mais si vous voulez, c'était passionnant. C'était passionnant. D'abord, c'est pas mes collègues philosophes qui ont. Alors si j'ai dit, j'ai été soutenu par Monique Canto, par Pierre-François Moreau, mais les autres regardent ça du genre, il y a Catherine, elle s'en occupe. Bon, ok. On a été très bien accueillis par les milieux de protection de la nature, et donc il y avait sans arrêt des choses nouvelles à faire. Il y avait sans arrêt. C'est ça qui m'a passionné et qui continue à me passionner, c'est que on n'est pas dans des sentiers trop parcourus. Il y a plein de choses. Je l'ai dit une fois, mais ça casse des os dans la tête. Il faut revenir sur un certain nombre d'idées reçues. Il faut parler de la nature. Il faut plus considérer. Je suis d'accord là-dessus avec Latour et Descola. Que nature et culture ou nature et société, c'est deux choses séparées. Donc, il y a constamment à remettre en cause des questions. Et pour moi, ça, c'est de la philo.
Si on s'approche de votre corps, on entend ceci, on découvre ceci.
Stefan, the train is leaving.
Just a minute. I don't want to go. Do you believe that?
I'll be here when you get back.
Yes.
Stefan, hurry, please.
I still know so little about you.
You like mystery.
That a woman like you exists, and I found you. That's mystery enough. Say, Stefan, the way you said it last night.
Stefan.
Goodbye. 2 weeks.
2 semaines qui seront bien plus longues que prévues. D'où vient cet extrait d'Adieu sur le quai de la gare, Catherine Larère?
Dans Lettre d'une inconnue? Ben c'est un film que j'aime énormément. Alors là, c'est mon côté peut-être sentimental, romantique.
Oui, c'est une nouvelle de Stefan Zweig, Lettre d'une inconnue, ouais. 1922, adaptée au cinéma par Max Ophüls, 148.
Oui, et c'est un film qui m'a bouleversée. Alors je sais que par ailleurs, Stanley Cavell a fait toute une interprétation, mais je l'ai aimé bien avant. Et c'est, oui, bon... Je pleure, disons.
Qu'est-ce qui vous touche tant dans ce film? Donc une femme rencontre un homme, l'homme
dit ça se passe pas.
Et ça se passe pas. Il revient jamais. Elle accouche d'un enfant 9 mois plus tard.
Et qui va mourir de la typhoïde ou d'un machin de ce genre. Et elle va le retrouver. Il ne va pas la reconnaître. Bon, je dois avoir un côté romantique.
C'est la définition du mélodrame d'ailleurs.
Ouais, mais j'aime ça.
Et le fait que ce soit une femme, le personnage principal, ça vous parle particulièrement ou peu importe?
Oui, je pense qu'il y a une identification plus facile, même si c'est pas, je dirais, elle est l'image un peu traditionnelle de la femme. Elle est à l'ombre et elle souffre et elle ment. Mais oui, c'est une femme et donc je me sens plus proche.
Quelle place jouent les sentiments dans votre pratique de la philosophie?
Pas énormément pendant tout un temps. Hein. J'étais très rationnelle. Et puis, bon, je les ai découverts, par exemple, en travaillant sur le Caire, avec Sandra Logier, autour des travaux de Carole Lilligan, et en me rendant compte que ça s'appliquait bien aux questions environnementales. Et donc, je dis pas que j'ai pas d'affect, j'en ai bien entendu, mais philosophiquement, j'y suis arrivée assez tard.
Et
c'est important.
Et quelle place ça prend? Ça prend quelle forme? Les affects dans la philosophie, c'est quoi? C'est le ton que vous employez pour en parler? C'est les sujets de recherche? C'est la manière de travailler?
Bon, d'abord, c'est les sujets de recherche. C'est-à-dire, je suis passée d'une vision très intellectuelle de la valeur intrinsèque, par exemple, à l'importance du relationnel. Donc, on est dans l'affectivité, on est dans, au refus aussi, parce que j'ai travaillé aussi sur l'éthique animale, au refus aussi d'opposer sentiment et raison, hein, et de tourner les femmes en ridicule, parce que ça serait toutes des Brigitte Bardot en train de pleurer sur des pauvres petits bébés phoques. Mmh. Bon, donc de refuser ce genre de choses. Puis peut-être qu'en prenant, je sais pas, de l'âge ou de l'assurance, je me suis tolérée des émotions que je ne tolérais pas plus jeune, ou que je ne montrais pas plus jeune.
C'est quoi cette émotion?
Eh ben d'être ému par l'être d'une inconnue, d'en parler, de pas garder ça en genre de secret, de pas être comme quand j'étais petite et que je lisais, j'adorais pleurer en lisant des romans, mais comme mon frère se moquait de moi, je me cachais dans la baignoire. Et ben voilà, je me cache plus dans la baignoire.
Parce que vous pensez qu'il y a une certaine conception de la philosophie qui exclut les affects?
Je suis pas spinoziste, hein, donc pas, j'en ai pas fait quelque chose de très très important, mais j'ai eu une pratique très rationnelle de la philosophie, oui, cartésienne en ce sens, avec plutôt pas trop côté théorie des passions.
Vous en parlez au passé, mais vous continuez à écrire, Catherine Larère.
Oui, oui. Je vous dis, est-ce que c'est la découverte que on fait pas sans affect, y compris dans la réflexion? Voilà, je suis venue.
Et travailler avec votre mari, ça change aussi quelque chose? Parce que vous dites vraiment, quand vous parlez de votre travail, vous dites on, vous dites nous, vous parlez pour deux personnes au fond.
Ben oui, parce que si vous voulez, on a deux façons de travailler ensemble. C'est-à-dire, d'une part, on a des connaissances complémentaires. C'est-à-dire, je peux avoir en philo une assurance que lui n'aura pas. il a en épistémologie et en histoire des sciences une assurance que j'ai pas, mais aussi on échange, on reprend à l'un ce qui est dans l'article de l'autre, donc et puis toute seule je serais pas arrivée, parce que si vous voulez la philosophie de l'environnement, on peut pas faire ça en étant ignorant, hein, la docto-ignorance dont certains philosophes se réclament, elle est pas possible en philosophie de l'environnement. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle. Il faut pas confondre le blé et le sarrasin. Il faut savoir qu'il y en a un qui est une céréale et l'autre pas. Enfin, un certain nombre de choses, hein. Et ça, si j'avais pas travaillé avec Raphaël, qui lui sait ça et qui me l'a appris, et la formation que j'ai eue un petit peu pluridisciplinaire fait que je n'ai aucun mépris pour les savoirs qui sont pas les miens. Pour moi, on fait pas de la philosophie de l'environnement si on n'est pas capable de pas dire de bêtises en écologie, en biologie et dans des tas d'autres domaines.
Et vous écrivez à deux?
Non, alors on n'écrit pas à quatre mains. Mais on écrit à deux, c'est-à-dire en général, bon, par exemple, dans les que ce soit du bon usage de la nature, que ce soit penser à agir avec la nature, que ce soit le pire n'est pas certain, on se partage le travail. Hein, par exemple, dans le pire n'est pas certain, la partie proprement, justement, épistémologique de critique de la prétention à la certitude sur l'effondrement, c'est mon mari. Qui reprend les arguments de Jean-Pierre Dupuy, qui est, bon, plus scientifique que moi. Et les autres parties, c'est soit on partage. Bon, il y a ce partage, et puis il y a le fait que chacun relit ce que fait l'autre. Et puis je vous dis, il y a des fois où on reprend un article que l'autre a fait, et donc on co-signe, quoi. On peut plus dire quoi est acquis.
C'est un plaisir d'écrire pour vous?
Des fois oui, des fois c'est dur. Des fois ça passe bien, alors ça va bien. J'ai toujours, même quand il n'y avait pas d'ordinateur, j'écrivais à la machine. J'aime bien voir la chose qui s'émancipe de moi, quoi. Et il y a des fois ça, c'est un peu dur, mais ça fait partie de la vie, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous encourage à écrire? C'est une idée que vous voulez développer? C'est un concept que vous voulez forger? C'est une chose que vous n'avez pas encore dite ou mal dite?
C'est que c'est mieux que quand c'est écrit que quand ça reste dans la tête. Et que justement affronter sa propre pensée, hein, parler de ce qui vous intéresse, ben tant qu'on le fait dans la tête, c'est facile et puis on n'y arrive pas. Et quand on est devant ce qu'on a écrit, là ça devient intéressant. Même si on est des fois, je me relis, je me dis mais je suis pas d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais il y a une sorte de objectivation, bref, de passage à l'extériorité. Dans l'écriture imprimée, qui en fait quelque chose qui pour moi est intéressant. En même temps, j'ai été prof et j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, ouais. J'aime beaucoup. Alors, ça a toujours été une improvisation réglée, mais j'ai jamais lu un cours. Donc, j'aime cette exposition. Et dans les tout débuts, j'improvisais beaucoup, hein, parce que bon, j'avais pas toujours le temps de préparer. Donc j'aime ce travail d'improvisation et qui suppose qu'il y ait quelqu'un d'autre en face de vous. Hein. J'ai beaucoup de peine pour les gens qui font du distanciel en ce moment, parce que si on n'a pas une présence physique, je trouve ça très très dur. Donc j'ai aimé ça, et je pense que ça me reste dans la façon dont les phrases se mettent dans ma tête. Mais écrire, c'est bien, et puis on est lu, quoi.
Dans le meilleur des cas.
Ouais.
Mais il y a bien quelque chose qui fait que vous continuez à écrire sur le même thème depuis toutes ces années. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore dit sur l'environnement ou
Mais il y a toujours des choses nouvelles à dire. Hein, parce que si vous voulez, ce qu'on montre dans le pire n'est pas certain, c'est qu'entre 1972, hein, le début de la globalisation des questions environnementales, et 1992, le sommet de la Terre, et les années 2000, le changement climatique, anthropocène, le contexte change. Et il y a des choses nouvelles à penser. Alors, je peux vous dire, par exemple, vous avez dit que j'ai été présidente de la Fondation de l'écologie politique.
Oui.
Quand j'y suis arrivée, je savais pas ce qu'était l'écologie politique. Et je commence juste à comprendre. Donc, il y a encore beaucoup à faire.
Mais c'est comme ça que vous présentez tout votre parcours. Vous arrivez à des endroits où vous ne savez pas. C'est par hasard. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Et puis, vous en faites votre spécialité.
Ben, oui. Bon, alors, je vais pas vous faire du grec et vous dire c'est le kairos. Mais.
Ben, pourquoi pas?
C'est saisir l'occasion et puis en faire quelque chose qui vous ressemble. Alors peut-être que j'ai laissé passer des tas d'occasions dans ma vie.
Non, mais ça veut dire, enfin peut-être.
Mais ça veut dire que j'en ai. Non, si vous voulez, il y a quelque chose auquel je crois pas. C'est la phrase de Nietzsche, deviens ce que tu es.
Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas prédestiné. Il n'y a pas une vocation, pas une idée précise.
J'étais dedans, hein. Mais j'aurais pu en sortir. D'ailleurs, à un moment, j'ai failli en sortir. J'aurais pu faire de la socio ou bon. Je suis resté en philo un petit peu parce que j'ai trouvé de la place en philo et pas. J'ai été un an assistante de philo à ce qui était Vincennes et qui allait devenir Paris 8 Saint-Denis. Donc j'aurais pu rester en si j'avais eu un poste en socio, je serais peut-être devenu sociologue. J'en sais rien. Mais je suis resté philosophe et ben j'ai essayé de comprendre ce que je faisais quoi. Et il y a toujours à comprendre.
Et vous arrivez à comprendre aujourd'hui ce que vous faites?
Mais ce qui me plaît, mais alors, bon, je sais pas combien de temps je vais y vivre encore, mais ce qui me plaît, c'est quand j'arrive à comprendre des choses que je comprenais pas avant. Je veux dire, l'espèce de ravissement que j'ai eu, j'étais une petite fille de 12 ans, à comprendre le cogito, ben, je l'ai toujours à comprendre, à me dire, ah, ben, ça y est, je comprends. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est pas un acte forcément. Alors, ça peut être engagé ou militant, mais c'est d'abord essayer de comprendre ce que je comprends pas.
Alors, je m'appelle Bruno Vigilafosse, surnom Shark, et je suis survivaliste. Coronavirus, Chine, inondations, sud de la France, tout ce qu'on sait sur la planète qu'on est en train de faire crever, tout ça, ce sont des éléments factuels qui font que, on se prépare à vivre le moins mal possible si jamais ça devait continuer à dégénérer. Des masques, des gants, hyper important, des lingettes désinfectantes et une paire de lunettes. En cas de pandémie avérée ou de risque avéré, pour moi, c'est le minimum à avoir.
J'espère que vous avez vos lunettes et vos lingettes désinfectantes, Catherine Larère, pour affronter
lingettes, non.
La fin du monde. Lunettes, oui, je les vois. Lunettes, oui. Vous venez d'entendre les conseils d'un survivaliste. C'était le 8 mars 2020, il s'est présenté et on a choisi cette vidéo. Il y en a beaucoup d'autres qu'on trouve en ligne de ce qu'on appelle, alors lui se présente comme un survivaliste, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la collapsologie, à savoir que le pire est certain. Votre dernier livre, donc coécrit avec votre mari Raphaël Larère, s'appelle « Le pire n'est pas certain », et c'est sur l'aveuglement catastrophiste. En clair, ce que vous voulez faire, c'est critiquer la collapsologie.
Tout à fait. Critiquer la collapsologie comme une nouvelle forme de théorie de la catastrophe ou de l'effondrement. Et bon, c'est-à-dire, on connaissait bien Jean-Pierre Dupuis, qui est le théoricien du catastrophisme éclairé, donc d'une forme qu'il emprunte à Günther Anders ou à Jonas, donc quelque chose comme une anticipation du pire, hein, le scénario du pire chez Jonas, mais chez Jean-Pierre Dupuis, ça reste, on pense la catastrophe pour l'éviter. Et bon, on avait participé au séminaire où il avait présenté, on n'était pas d'accord, mais on pouvait discuter. Or, la collapsologie, telle qu'on la voit apparaître en France avec le livre de Servigne et Stevens en 2015, c'est pas on va imaginer le pire pour l'éviter, c'est le pire est inévitable. Il est ontologiquement là. Et ça, on a rencontré ça dans un colloque à Cerisy, et on s'est dit, non mais ça va pas. Ça va pas, c'est-à-dire...
Qu'est-ce qui va pas?
C'était, alors quand je dis j'aime comprendre, c'était une incapacité de penser. D'où le, si vous voulez, sur l'aveuglement, hein, le sous-titre est une façon de dire, mais voyez, on n'est pas en train de critiquer Jean-Pierre Dupuis, c'est pas du tout ça. C'est une façon de... Bon, renoncer à agir, parce qu'on pense que la collapsologie, bon, les gens qui se réfugient, ben, ils pensent qu'il n'y a plus qu'à se réfugier, hein, que donc c'est sur une base d'impuissance. Et puis, c'est une sorte d'incapacité à penser, parce que on ne cherche pas à penser la diversité des possibles. On se dit, ben voilà, on y va, c'est certain. Et donc, c'est ça qu'on critique.
Vous pensez que tenir la fin pour certains et donc le pire pour certains est une manière de se dispenser de penser. Au fond, c'est ce que vous dites.
Il y a de ça.
Parce qu'on peut tout à fait imaginer que tenir le pire pour certains, tout en déployant des trésors d'imagination et de pensée pour essayer de voir ce qu'on fait en attendant que le pire arrive. L'horizon peut être certain, le présent ne l'est pas du tout.
Ben, il faut quand même, si dans le présent se tient sous l'horizon de la catastrophe inévitable, ça restreint quand même énormément les possibles. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, c'est ce que disait la bande que vous passez, c'est de survivalistes. Alors bon, ils sont pas tous survivalistes, mais c'est dire bon, ben en attendant le pire, essayons de vivre le mieux possible. Et c'est quand même beaucoup plus restreint que de se dire le pire n'est pas certain. Essayons de voir dans les possibles ce qui permet de transformer la situation. Alors pas forcément de la rendre bonne, elle est mauvaise la situation. Mais on n'a pas simplement à attendre passivement et égoïstement que les choses se détériorent.
Ça dépend à quelle échelle on se place, parce que à l'échelle individuelle, la catastrophe est certaine, on va tous mourir.
Oui, alors c'est là que justement...
Ça ne nous empêche pas d'agir. Et c'est la conscience de la mort peut être un vecteur d'action.
C'est là justement que à mon avis, Servigne, Stevens et Chappelle, ils ont fait deux livres. Dans leur deuxième livre, font constamment la comparaison entre...
Pablo Servigne, notamment le collapsologue.
Font constamment la comparaison entre l'individu à qui on apprend, par exemple, qu'il a un cancer et qu'il en a pour... pas longtemps, hein, et qui pourtant peut se réapproprier sa vie, et l'humanité, qui pour eux est menacée d'une fin certaine, et ils disent on peut se réapproprier la vie sans remettre en cause la fin. Or, moi je prétends que ce passage de l'individu à l'humanité, ben c'est une mauvaise analogie, c'est un mauvais raisonnement par analogie. Et de ce point de vue-là, il y a une réflexion que j'ai trouvée très intéressante, ce qui est par ailleurs un philosophe libéral qui est Samuel Schaeffler, où il montre que justement, il y a une seule chose certaine, c'est que nous allons mourir. Si nous supportons notre mort, c'est parce que nous pensons que l'humanité va continuer après nous. Et que donc, de ce point de vue-là, l'humanité n'est pas un individu qui va mourir. C'est un ensemble de relations. Et pour accepter notre mort, ce qu'il faut bien faire à un moment ou à un autre, elle peut avoir un sens parce que d'autres seront là après nous. Donc on ne peut pas transposer à l'humanité, puisque l'idée, si vous voulez, alors on peut dire aussi la mort de l'humanité est certaine, puisque toutes les espèces sont...
Oui.
Bon, mais... je crois que c'est Schaeffler qui le dit, ou le dit très bien, en disant, c'est le moment où ça fait sens. C'est-à-dire que cette mort dans un espace historique qui a sens pour nous. Vous savez, il y a l'histoire du physicien qui fait une conférence en disant, dans 5 milliards d'années, on va devenir une géante rouge. Bon. Et quelqu'un lève la main dans la salle et dit non, pas dans 5 milliards, dans 6 milliards. Et les autres disent « Ouf !» Mais voilà, c'est pas de cette fin-là qu'il s'agit. Hein. C'est dans le temps historique de l'humanité où l'humanité fait sens pour nous, elle peut disparaître. Et c'est pas du tout la même chose de savoir que nous allons mourir et de prétendre que l'humanité va disparaître. Donc de ce point de vue-là, l'analogie pour moi n'est pas bonne.
Et d'un point de vue purement environnemental, affirmer que le pire n'est pas certain, c'est redonner aussi en l'être humain le sens même d'un engagement possible, au fond.
C'est ouvrir la pluralité des possibles, donc c'est de se dire... Alors pour ça, il faut sortir du global, parce que au niveau global, je dirais que les collapsologues ont raison, les choses vont très très mal, les chiffres sont complètement terrifiants, alors que... Au niveau local, il se passe des choses.
Hein, alors le global, c'est quoi? C'est la planète?
C'est la planète.
Ouais. Et le local?
Le local, ça peut être un village, une rivière, ça peut être tout un fleuve. Bon, les Anglais ont plus ou moins fait ce que Chirac nous avait promis pour la Seine, c'est-à-dire que la Tamise est beaucoup moins polluée. Donc il y a des choses qui se passent au niveau environnemental. Notre-Dame-des-Landes, on n'est pas allé au pire. L'aéroport ne sera pas étendu sur Notre-Dame-des-Landes. On pourrait citer de tas d'autres exemples en dehors de la France. Donc, il y a effectivement des choses à faire. Bon, qui vont pas nous faire revenir à un temps où on se préoccupait pas beaucoup de l'environnement parce qu'il nous menaçait pas beaucoup. Mais on est dans une pluralité de situations difficiles. Mmh. Et dans cette pluralité de situations difficiles, il y a des choses à faire.
Et est-ce que l'addition d'expériences locales qui, elles, se passent bien peuvent contribuer à l'amélioration du global? Ou est-ce que le global, tout à fait?
C'est un peu le problème, si vous voulez. Est-ce que, est-ce qu'il y a une sorte, effectivement, de synergie ou de prise en masse, de multiples transformations locales qui fait que les conséquences d'ensemble sont moins négatives? Parce que par ailleurs, si vous voulez, l'idée d'un effondrement global au même moment partout dans le monde, elle n'est pas forcément totalement impossible, parce qu'elle n'est pas totalement contradictoire, mais elle est totalement improbable.
Bon, c'est presque optimiste cette fin, Catherine Larrey. On va se quitter avec une autre chanson, les frères Jacques ont ouvert l'émission, on se quitte avec l'opéra de Katsu, La Complainte de Maki Messer. Pourquoi l'opéra de Katsu vous parle-t-il ?
Oh, ça, c'est cela aussi, c'est des choses de jeunesse, hein, Kurt Weill et Bertolt Brecht, c'était des choses que
c'est pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Et ben voilà, on se quitte avec le plaisir. Merci beaucoup, Catherine Larrey.
Merci.
Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, c'est le titre de votre dernier livre coécrit avec Raphaël Larrey.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen. Rot, wenn dieser Blut vergießt. Mäcki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Den man Mäcki Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden. Und so mancher reicher Mann. Und sein Geld hatte Mäcki Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kiegelt Mäcki Messer, der von allem nichts gewusst und das große Feuer in Soho. Kinder und sein Kreis in der Menge, Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure comme tous les vendredis de l'instant archive. La philo dans le rétro, cette semaine en compagnie de Claude Lévi-Strauss. Une archive du 1er novembre 1968 dans laquelle Lévi-Strauss parle des bonnes manières, en particulier de celles des filles pubères qu'il appelle les petites filles modèles dont on parlait nous lundi dernier.
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
Science et technique par Georges Charbonnier. C'est le professeur Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, qui veut bien répondre à nos premières questions.
Quand nous recherchons ce qui se rapproche le plus de ce que nous appelons les bonnes manières, c'est-à-dire manger avec une fourchette et pas avec ses doigts, se servir d'un peigne, porter des gants, eh bien, au fond, nous trouvons tout ça dans un grand nombre de sociétés que nous appelons primitives, mais limitées à une certaine catégorie, à une certaine période de l'existence. Ce sont des usages qui sont parfaitement connus, notamment des Indiens de l'Ouest ou du Nord-Ouest américain, mais qui sont strictement appliqués aux filles pubères au moment même de leur puberté. Et, en essayant de comprendre ce qui se passait dans ce cas particulier, il m'a semblé qu'on pouvait arriver à comprendre ce qui se passe dans tous les cas et dans notre cas également. Si une fille pubère doit être une petite fille modèle, c'est que elle se trouve dans une période particulièrement critique de son existence, avec un organisme qui est dans un état d'ébullition violente, et qu'il est donc nécessaire d'interposer entre elle et le monde des termes modérateurs, si je puis dire, et des sortes d'interrupteurs. Et ce sont précisément ces instruments, si elle entrait en contact direct avec l'univers, les forces profondes qui s'agitent en elle pourraient contaminer tout l'univers. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce ne sont pas seulement des termes qui introduisent une sorte de médiation entre le ciel et la terre, entre le soleil et l'humanité. Ce sont aussi des termes qui imposent un rythme plus assagi, plus paisible, plus domestiqué à nos échanges envers le monde, et qui, dans ce cas particulier, ont pour objet d'assurer que les femmes ne sont pas indisposées à tout moment mais à période régulière, qu'elles n'accoucheront pas à tout bout de champ mais au bout d'un certain nombre de mois fixés d'avance. Il s'agit donc de rythmer la marche du monde. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passe dans le cas général, où par l'emploi de ces objets techniques, et peut-être d'ailleurs de tous les objets techniques, car ce ne sont là que des objets techniques parmi d'autres, nous essayons de trouver une sorte de juste mesure entre l'état d'impuissance où nous serions réduits vis-à-vis du monde si nous n'avions pas d'instruments, pas d'outils pour aider à la prise que nous avons sur lui, et l'état de déraison qui serait également le nôtre si ces instruments nous donnaient un pouvoir illimité au lieu d'établir simplement une contrainte qui mesure paisiblement nos échanges avec le monde extérieur. À partir de là, on se pose toutes sortes de problèmes et on se fait toutes sortes de réflexions. Car si peut-être l'usage des gants, du chapeau, du peigne, de la fourchette continue même chez nous à remplir cette fonction, il est certain qu'il existe bien d'autres objets techniques et qui sont pourtant issus des premiers. Toutes sortes d'instruments que nous avons à notre disposition et que je n'ai pas besoin d'énumérer, à commencer par l'automobile d'un côté jusqu'à la bombe atomique de l'autre côté, mais qui, peut-être, nous ont sauvés de l'impuissance et nous ont même donné une puissance extrême, mais une puissance qui, cette fois-ci, ne nous met pas à l'abri de la déraison.
Merci beaucoup, Claude Lévi-Strauss, et j'espère à bientôt. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie d'Avril Poignant-Le Goff, de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Esther Valency qui réalisaient cette émission aujourd'hui pour vous. À la prise de son, c'était Ludovic Auger. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions des Chemins de la Philosophie. On parlera de Bourdieu la semaine prochaine. On se demandera si nous sommes tous les héritiers de Bourdieu. On parlera de la sociologie du sociologue. On s'interrogera sur les notions de distinction, celles d'État. Et on se demandera jeudi si on a le droit de critiquer Bourdieu. La question est sérieuse et on a toute la semaine pour y répondre. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez écouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. L'équipe des Chemins est ravie de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À lundi, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.